vous êtes des nuls. Quelle bande d'incapables. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas possible. Bon, bien entendu, c'est pas ce qui se passe maintenant, mais c'est ce que perçoivent parfois les conseillers des centres de contact. C'était un petit extrait. Le livre m'en tombe. Ben justement, on va parler d'émotions, d'incivilité et de personnes qui sont comme moi énervées ou comme Chantal quand elle a des problèmes. Et ben justement, comment gérer ces fameuses émotions, ces incivilités. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux experts. Donc Astrid, je te laisse te présenter.
Bonjour Frédéric et merci pour l'invitation. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer ce sujet qui est ultra important dans nos métiers de la relation client. Alors, je suis donc Astrid Lelièvre, je suis issue du milieu de l'hôtellerie, près de 20 ans maintenant dans les métiers de la relation client au sein d'hôtellerie économique d'abord, du tourisme avec le groupe Pierre et Vacances, et puis dans le luxe pour le groupe Barrière en tant que directrice qualité et expérience client, toujours au service du client. Et puis en 2021, comme beaucoup, je me suis posé la question du sens de mon métier et j'ai rejoint le groupe Clariane en tant que directrice expérience et relations client pour les activités France.
Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le groupe Clariane ?
Alors, le groupe Clariane est la première communauté de soins européenne présente dans 6 pays au service des personnes en situation de fragilité qui se décline sous 3 activités principales : les maisons de retraite sous la marque Korian, les établissements de santé, santé mentale, soins de rééducation sous la marque Inicea et puis la colocation partagée, l'habitat partagé sous la marque Agivi. Donc le groupe Clariane, c'est 60 000 collaborateurs, mais 22 500 en France.
Ouais. Alors Salima, je te laisse te présenter.
Bonjour Frédéric, je suis ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment avec Astrid. Donc je suis l'heureuse fondatrice du cabinet de conseil One Love Management. Donc l'idée, c'est évidemment d'accompagner les organisations à transformer leurs services, hein, tout simplement, en mettant toujours l'humain au cœur de ces changements. J'accompagne sur le management de la relation client et je suis très orientée sur l'expérience collaborateur, car je pense véritablement que les conseillers sont notre plus grand atout. Et chez One Love Management, il y a une méthode qui consiste à écouter avec le cœur, conseiller avec intuition et agir avec passion.
Ouais. Et c'est vrai que le logo est très sympa puisqu'en fait, on voit bien cet aspect cœur, cet aspect écoute et cet aspect main tendue qui est vraiment très, très, très un symbole de la relation client, je trouve.
Oui, le logo de One Love Management, en fait, représente un peu cette symétrie des attentions que l'on connaît via l'Académie du service. Et en fait, vous avez le client et le collaborateur qui sont représentés par ce cœur.
Alors justement, on parle de cœur, mais c'est du cœur positif là, mais parfois, il y a des incivilités. Alors pourquoi elles arrivent? Pourquoi sont en augmentation depuis quelques temps? D'où ça vient selon toi?
Alors, les incivilités, c'est dû à plusieurs choses. D'où elles viennent? Alors, en tout cas, aujourd'hui, elles sont de plus en plus importantes. Il faut avoir en tête qu'on est quand même dans une situation de vie qui est de plus en plus compliquée. L'actualité ne nous aide pas. Et puis, on a beaucoup d'émotions. Et les incivilités, c'est souvent la rencontre de plusieurs choses. La première chose, c'est l'exigence. Voilà, nos clients sont de plus en plus exigeants, que ce soit en termes de qualité de service, qualité des produits. Et évidemment, lorsque ça rencontre l'agressivité, eh bien, ça se transforme en incivilité.
Ouais, et tu parles d'émotions qui débordent.
Oui, les émotions débordent. Bien, évidemment, on est constitué de beaucoup de choses, on vit évidemment tous ensemble. Et oui, ces émotions, elles débordent. Il y a parfois évidemment du stress. Ouais. Il y a aussi des angoisses, des inquiétudes, une projection vers l'avenir qui n'est pas forcément évidente. Et ça se retrouve évidemment dans notre quotidien, y compris dans notre relation aux marques.
Ouais, c'est vrai que des populations fragilisées le sont encore plus. Donc forcément, ça devient un stress du quotidien qui se ramène dans la relation client. Alors moi, ce que j'ai voulu vous rajouter là maintenant, c'est quelques slides qu'on a mis en place avec Soli Hazard, Groupe France Mutuelle et Groupama lors d'une intervention au IN, où on a justement aussi parlé d'incivilité et on a essayé de déterminer quelles sont les racines. Tu l'as dit précédemment, c'est aussi une question générationnelle. On veut tout de suite. l'immédiateté des canaux digitaux. On veut une réponse immédiatement, j'appelle au téléphone, je ne veux pas patienter longtemps. On voit aussi qu'il y a moins de retenue sur le vocabulaire. Et tout ce qui est menace, je ne suis pas content, je vais contacter Julien Courbet, je vais contacter le responsable de la relation client de l'entreprise, j'ai essayé d'appeler, de solliciter le directeur général de l'entreprise. Donc voilà, on voit bien que les gens ont beaucoup moins de retenue qu'auparavant, post-Covid, on voit bien. Et l'autre point, c'est, tu l'as dit, l'incivilité, c'est les émotions qui débordent. Et c'est vrai que l'émotion, cette incivilité, vient souvent d'un problème en fait, de frustration. Je ne peux rien faire parce que on me donne pas les moyens. Je ne peux pas répondre. Je me retrouve contre un bot. J'ai un sentiment d'injustice. Je mériterais pourtant d'avoir quelque chose et pourtant je suis un client fidèle. Vous me faites pas ça. Donc là, on peut être lié directement au service ou en dehors de cela. Ça peut être une injustice que je vis dans la vie et moi je veux avoir quelqu'un en face de moi. Puis je n'ai pas la réponse. Hop, je m'énerve parce que il y a quelqu'un qui viendra comme ça prendre un peu ma part de colère. Donc justement, cette frustration se transforme en colère, une forte émotion, et ensuite, ça peut aller jusqu'à l'agression physique ou verbale, on en parlera tout à l'heure, donc ça peut monter très 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 loin. Alors justement, pour arriver là-dessus, vous, chez Corian et Clariane, les émotions, c'est dans le quotidien ?
Exactement. Dans notre secteur, finalement, l'humain et l'émotionnel sont au cœur de toutes les interactions. Oui. Et donc forcément, ça monte crescendo. Alors ça s'explique de par notre société, hein, aujourd'hui dans laquelle nous vivons, où vraiment tout est spécialement tendu. Et également dans notre secteur en particulier, donc déjà on a un niveau émotionnel très chargé côté client, de la culpabilité de la part des familles notamment, où elles n'ont pas d'autre choix parfois que de placer leurs proches en institution, la peur également, la méfiance. C'est autant d'émotions qui sont partagées à la fois par l'ensemble des clients. Hein. Quand je parle client, je parle famille, proches, résidents et patients, mais également équipe, hein, professionnelle. Il y a également eu la crise sanitaire qui a effectivement augmenté les exigences des clients. Le manque de confiance également dans notre secteur. Et puis, la crise médiatique.
Cette confiance est un petit peu érodée.
C'est clairement de la défiance érodée. Maintenant de l'opinion publique. Hein, et quand je parle d'opinion publique, c'est vraiment l'image du secteur qui a été détruite sur l'ensemble des groupes. Hein. Et forcément, la confiance ne se décrète pas, elle s'acquiert au fil du temps. Donc voilà. Et puis, il y a aussi la réalité opérationnelle, hein, où effectivement les incivilités sont de plus en plus fréquentes, malheureusement, de plus en plus banalisées aussi parfois par les équipes, mais toujours aussi déstabilisantes et difficilement gérables. Et effectivement, de notre côté, il ne faut pas oublier que ce sont des humains qui prennent soin d'autres humains, donc forcément, par définition, la perfection n'existe pas. Et pour autant, nos clients ont des attentes extrêmement élevées, ils pensent possible avoir un soignant pour s'occuper de leurs proches, ce qui est juste pas possible. Qu'on est également dans un secteur où on manque de soignants, justement. Et quand on a des soignants et qui sont sous-effectifs, parfois, ils sont en mode pilotage automatique. Ils font les gestes métiers, les gestes techniques, sans prendre le temps, justement, de prendre le temps avec le résident ou le patient. Et ça nuit forcément à l'empathie, à la relation humaine de manière générale.
Alors, Salima, en préparant donc cet atelier, tu me disais que c'était important, justement, dans ce cadre des émotions, des incivilités, de poser ce fameux cadre émotionnel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Le cadre émotionnel, c'est finalement très proche de ce que moi, j'appelle le cadre qualité, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Le cadre émotionnel, on va le travailler quand on va identifier les moments de vérité sur le parcours client de manière à identifier les émotions de chacun de ces moments et de travailler autour des rituels en fait, de service que l'on va mettre en place en fonction des émotions que l'on aura identifiées. Et parfois, il va y avoir des moments qui vont être plus irritants que d'autres. Et l'idée ici, c'est de pouvoir anticiper. Mais en tout cas, ce cadre émotionnel, il va être très important. Ouais. De pouvoir, en effet, l'identifier à la fois pour permettre aux collaborateurs, une fois formés, d'agir maintenant. on espère toujours d'anticiper l'incivilité, mais aussi dans le futur, de manière à se remettre en question et se réadapter et à revoir les rituels de service, évidemment.
Ouais, donc il y a trois points, client, collaborateur, organisation dans ce cadre émotionnel.
Oui, ça c'est ce qu'on appelle le triptyque du cadre émotionnel, parce qu'en effet, chacun va vivre son expérience de manière différente, autant le collaborateur que le client, et donc c'est important d'identifier les émotions de chacun et d'où est-ce que ça peut provenir, mais aussi l'organisation de manière plus globale en fait. Et ces trois choses, il faut impérativement les prendre en compte. Côté client, les irritants, on peut les identifier de différentes manières, évidemment. Mais c'est souvent de l'ordre de l'insatisfaction. Tu parlais tout à l'heure de cette question d'immédiateté. On veut tout de suite, maintenant. Et les outils le permettent, mais parfois les process ne le permettent absolument pas.
Ou les effectifs.
Exactement. Tu as tout à fait raison. Ça peut jouer. Tu peux aussi avoir évidemment une perte de confiance parce que je n'ai pas été satisfait une première fois. Donc du coup, j'anticipe une nouvelle insatisfaction et donc déjà je me suis, tu vois, programmée pour que ça ne fonctionne pas. Le désengagement, évidemment, ça aussi, ça va jouer. Et côté collaborateur, il va y avoir plein de choses. Alors, évidemment, tu vas avoir une fatigue empathique parce que c'est quelque chose qu'on demande à nos collaborateurs, de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Et parfois, ça peut être épuisant et fatigant. Donc, du coup, les tensions, on est encore un peu plus fragiles sur ces sujets-là. Et puis là au corps, du stress, parfois le turnover aussi, le climat social va avoir un impact. Et là aussi, en miroir, le désengagement des collaborateurs. Et au niveau de l'organisation, là, c'est vraiment l'ensemble en fait, de la structure qui doit être adaptée, et elle ne l'est pas toujours, pour gérer les tensions jusqu'aux incivilités. Une baisse de la performance aussi. Peut jouer. Enfin, tu vois, quand une équipe, elle sait que les indicateurs, là, ils sont un petit peu plus en difficulté, mais ça va jouer aussi sur les émotions. Donc tout ça, ça doit être considéré parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va gérer ces incivilités, mais elle les déclenche aussi. Donc c'est ça qui est important.
Bah, justement, on parle là d'incivilité depuis quelques temps. Oui. Qu'est-ce que c'est une incivilité et pourquoi c'est important de la définir ?
Eh bien, moi, j'ai envie de te dire qu'une incivilité, c'est un peu tout ce qui se fait sans sourire et sans gentillesse.
Oh, mais bah là, il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup d'incivilité dans le quotidien.
Parce que je pense que c'est très, très important d'avoir les bonnes limites et au bon moment. Donc forcément, quand on est dans une relation qui n'est pas agréable, eh bien, en fait, ça nous touche de manière inconsciente, mais on est touché. Donc déjà, une incivilité, c'est de se dire qu'elle blesse d'une certaine manière. Donc, chacun a différentes sensibilités. Pour autant, chaque organisation, chaque entreprise, en fonction des produits et des services qu'il vend, va définir ce qu'est une incivilité dans son organisation.
Et c'est vrai que tu nous as mis une petite capture d'écran que tu as pris depuis ta voiture et tu nous disais « Ah, mais c'est exactement notre sujet !»
Exactement, oui, je suis tombée dessus par hasard et je t'ai immédiatement envoyé la photo. Je trouvais ça intéressant. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui le font et ça, c'est vraiment super, notamment parce que ça va avoir un impact réel, autant sur les collaborateurs, on en reparlera, mais ça veut dire que l'entreprise reconnaît ses incivilités. Parce que clairement, c'est inacceptable.
Ouais. Là, je pense que c'est important. Là, on voit insultes, menaces, agressions. Là, forcément, là, on monte quand même d'un niveau.
Exactement. Et les agressions, elles peuvent être verbales. Mmh. Elles touchent, elles font mal. Même si on demande à nos collaborateurs de ne pas prendre ces sujets-là personnellement. Enfin, c'est quand même difficile. On est des êtres humains, donc on est touchés. Et puis, quand on est impliqué dans son travail, forcément, on a tout de suite envie de se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et j'ai peut-être pas forcément fait quelque chose de mal. Parce que c'est tout un écosystème qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça touche. Et ça, il faut le traiter. Donc, c'est inacceptable, c'est vrai. Maintenant, après, il va y avoir différents moyens de le prendre en charge. Mais le fait de communiquer auprès de ses clients et au-delà, hein, parce que moi, je ne prends pas le bus, et pourtant, ça m'a touchée, ça montre bien que l'entreprise, elle considère ce point et donc elle respecte ses collaborateurs et elle demande aux clients de respecter ses collaborateurs. Et ça touche y compris le grand public. Et c'est là qu'on en revient aux émotions parce que du coup, on fait appel au cœur du grand public et on est dans la prévention. Donc ça, c'est très intéressant.
Donc définir ce que c'est une incivilité. Chez Corian, pour vous, où ça commence un petit peu cette incivilité?
Je rejoins Salima sur la notion de sourire. Nous, une incivilité, ça va commencer par une famille qui ne dit plus bonjour, par exemple, quand elle vient rendre visite à son proche, ou qui va faire des remarques, des critiques continuelles, incessantes, sur un ton plus ou moins adapté, voire même agressif. Aujourd'hui, moi, je fais le triste constat que mon métier a changé. Mon équipe et moi-même ne répondons pas juste à des réclamations en essayant de satisfaire le client en répondant à leurs réclamations. Non, aujourd'hui, clairement, on rappelle les règles de fonctionnement de nos établissements aux visiteurs, aux proches, aux familles. Parce qu'on constate que effectivement
ça dérape
et on peut pas l'accepter. On peut avoir des différends. Je ne dis pas que les insatisfactions ou les réclamations ne sont pas justifiées, mais on peut être respectueux.
Ouais, et, il y a une manière de faire.
Il y a une manière de faire, il y a une manière de dire les choses, et on ne peut pas tout accepter. Aujourd'hui, le client, il n'est plus tout puissant, et il faut bien aussi le faire comprendre aussi à nos équipes. Hein. Elles doivent se faire respecter et on doit les aider à se faire respecter. On ne peut pas accepter que nos équipes soient maltraitées. J'ai un exemple très concret qui date d'il y a quelques semaines, justement, où le fils d'une résidente est venu sur l'établissement, connu des services de l'ordre, hein, des services de police, pour ses problèmes de comportement. Et il est venu très en colère. Il était déjà venu sur l'établissement. On avait déjà dû mettre des vigiles en place pour le canaliser. Mais il en est venu aux mains auprès du directeur et des soignants qui a débouché sur des jours d'ITT, tout simplement parce qu'il a vu sa mère somnolente dans un fauteuil. Voilà, ce qui arrive beaucoup
dans les maisons de retraite.
Et donc voilà, c'est parti vraiment là dans le rouge, où on a dû faire appel aux forces de l'ordre, qui sont venues bien sûr. Mais voilà, ce genre de situation est juste inacceptable pour, encore une fois, des humains dont le métier est de prendre soin. Donc on ne peut pas connaître ces situations inacceptables. Donc nous, une des missions de ma direction est justement de prendre le relais auprès des établissements, justement, quand il y a une menace, par exemple, souvent mise à exécution d'ailleurs, d'avis Google extrêmement négatif, qui nuit à la réputation de l'établissement, mais aussi à celle du directeur. Donc nous, notre mission, c'est de prendre ce recul que le directeur d'établissement n'arrive plus à prendre, pour répondre à ces avis, non pas d'une manière générique, hein, mais plutôt personnalisée avec les bons mots. Parce que le choix des mots est très important et on ne se dédouane surtout pas. Donc il faut bien répondre aux avis Google parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte, hein, ça va être la réponse du professionnel et éviter les réponses génériques, hein, mais choisir les mots justes.
Ouais, essayer de comprendre cette émotion. Et comme je l'ai dit, le client n'est certes plus roi, mais il ne doit pas être un tyran.
Exactement. Exactement. On se doit respect mutuel.
Et la violence n'est pas une manière de parler. Alors que c'est vrai que certaines personnes ont un peu trop tendance à voir ce langage, même à l'école, moi je le vois, j'ai des enfants, la violence
elle est
commence...
partout. Et puis on constate effectivement ces débordements dans tous les secteurs, hein, l'école, les crèches, les hôpitaux, les services des urgences. Voilà, donc aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on est dans un secteur où on manque de soignants, il faut qu'on prenne soin d'eux. Il est hors de question qu'on ne puisse pas mettre de solutions en place justement pour prévenir ces incivilités.
Alors, on arrive justement à la partie importante. Comment on va essayer de gérer ces incivilités, comment on va protéger ces équipes. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, tu as listé 5 piliers qui permettent justement d'aller aider les équipes et faire en sorte qu'on puisse gérer ces incivilités qui arrivent de plus en plus, quoi, les 5 leviers opérationnels.
Oui, on va en parler tout de suite, mais avant ça, en réfléchissant hier soir à notre échange, je repensais à une femme que j'ai rencontrée à Casablanca, qui s'appelle Rizlen Boulabar. Elle est psychologue clinicienne et chercheuse. Et en fait, lors de la conférence à laquelle j'ai assisté, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler, c'est qu'elle pense en effet que la qualité de la relation, dans la relation client, elle se joue aussi beaucoup dans des zones inconscientes. Et c'est là que je trouve que c'était intéressant d'en reparler aujourd'hui, notamment au regard des émotions qu'on évoque. Et donc, elle met en évidence tous nos biais cognitifs. Alors, moi, je ne suis pas experte, évidemment, donc je ne parlerai pas en son nom, mais c'était simplement pour ajouter que les émotions et la physiologie vont aussi beaucoup rentrer en fait en ligne de compte dans la manière dont le client et ou le collaborateur va en effet interagir avec l'autre. Et ça peut évidemment, ce que tu évoques là, et notamment chez les enfants, déclencher ces incivilités. Et donc, oui, l'entreprise, elle a des obligations, c'est ce que tu venais d'évoquer à l'instant, et donc elle doit préserver ses collaborateurs. De toute façon, c'est un devoir de l'entreprise.
Légale.
C'est une obligation légale. Et donc, quand une entreprise comme la RATP affiche haut et fort cette conviction profonde qu'il faut respecter ses collaborateurs, ça renforce, la puissance du collectif. Et donc, du coup, le collaborateur est beaucoup plus en confiance. Ils se sont aussi protégés. Et il sait qu'il sera entendu. Et donc, ce que Rislaine, elle dit aussi, et là, ça rejoint évidemment ce que moi, je dis beaucoup quand je prends la parole pour One Love Management, c'est que c'est important aujourd'hui de replacer cette psychologie de cœur dans nos organisations, et notamment pour mieux performer, en tout cas sur la partie relation client. Et donc, du coup, pour en revenir à nos 5 leviers opérationnels, donc former, sensibiliser, structurer la régulation, protéger les collaborateurs, soutenir et recharger, parce que c'est ça important, et gérer les excès et reconnaître les incivilités, il y a plusieurs choses. Évidemment, former et sensibiliser, ça, c'est extrêmement important. Et vous en avez parlé d'ailleurs lors de votre webinaire avec
Lamarck et puis Guillaume Antonietti.
Exactement. Sur l'importance de la culture client et la formation des collaborateurs, le fait de les outiller. Donc les outils, ils sont importants pour anticiper. C'est-à-dire que on se base aussi sur l'expérience que l'on a des derniers mois, voire des dernières années, pour désamorcer et comprendre. Ça va être très important. Évidemment, il faut aussi connaître les droits, les obligations, tout le cadre justement émotionnel et ce fameux triptyque dont on a parlé tout à l'heure qui va être identifié dans l'organisation et si possible en collectif. Plus on travaille avec les équipes et plus on est efficace. Donc ça, c'est important. Écouter avec le cœur, mais ça, je ne le dirai jamais assez, même dans ce type de situation. Évidemment, c'est important. Accepter qu'il y a des émotions. De part et d'autre.
De ses propres émotions.
Exactement.
Et l'émotion de l'autre, essayer de se protéger. C'est vrai que je discutais avec la responsable relation client de la MNH, Nantes Métropole Habitat, et qu'elle disait, selon sa culture, on peut avoir une vision différente. Et elle me disait, ils ont formé les personnes à la diversité parce que la manière de s'exprimer soi et la manière de s'exprimer avec une autre personne, c'est pas la même chose. Il y a un ton, il y a un débit, et finalement, il ne faut pas le prendre sur soi.
Non. Et c'est hyper important dans ces cas-là d'écouter son intuition parce qu'elle, elle ne se trompe pas. Et en effet, la culture ou nos cultures et cette richesse dans la diversité, elle est hyper importante. Et parfois, il faut peut-être laisser le mental aussi de côté et juste écouter cette petite voix intérieure parce qu'on reste des êtres humains dans tous les cas et on arrive à se connecter. Et la preuve, quand on voyage, on le voit bien, même si on ne parle pas forcément la langue de l'autre, on arrive quand même à retrouver son chemin. Ensuite, sur structurer la régulation, l'idée, c'est quand même d'éviter l'improvisation et d'avoir quand même une organisation qui est préparée aux incivilités. Ça, c'est la base, de manière aussi à aider à la prise de décision, à harmoniser en fait la prise en charge dans ces cas-là, et puis d'avoir des process structurés de manière aussi à pouvoir escalader de façon à ce que le collaborateur puisse faire appel à un manager ou à une autre personne, jusqu'à un service de médiation, voire à un service juridique, le cas échéant. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir des personnes sur lesquelles on va pouvoir se reposer, comme des ambassadeurs dans l'organisation, qui, eux, auront peut-être reçu encore un autre type de formation, justement, pour prendre à ce moment-là en charge un collaborateur qui aura peut-être été agressé ou qui aura subi une incivilité. Mais après, il faut mesurer aussi le niveau de l'incivilité.
Tableau de bord qui est important aussi à suivre. Si on est sur une hausse, si on est une baisse, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui arrive par établissement, par au global, etc., etc.
Oui, ça se pilote un peu comme tout. Ça se mesure, ça se pilote, ça se réajuste. Et c'est important, en effet, de tracer ces incivilités. C'est ouais. très important. Il faut communiquer aussi auprès des équipes. On va mettre en place des actions correctives. Il faut aussi les communiquer aux équipes et jusqu'aux clients. Pourquoi pas, tu vois, on peut tout à fait rajouter à côté d'une assiette sur les incivilités ce qui a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui ouais. pour le faire. Et quand on doit faire appel à la justice, en tout cas parce qu'on doit porter plainte pour des dégradations, par exemple, physiques, matérielles, bah, peut-être qu'il faut aussi communiquer dessus et ça rassure aussi les équipes.
Exactement. Donc c'est ce que disait Groupama. Lorsqu'ils font en fait qu'il y a eu des émeutes et que les agences ont été touchées, ils ont réparé l'agence. Ils doivent en fait, ils portent plainte et ils en mettent une copie aux collaborateurs pour montrer qu'ils sont solidaires des collaborateurs.
Ça, c'est hyper important. Enfin, ouais. Vraiment, ça renforce la confiance du collaborateur et le fait même d'avoir ce cadre. Permet aux collaborateurs de mieux gérer, en fait, tout simplement parce qu'ils se sont soutenus.
Exactement.
Là, tu vois, pour le coup, on parle même plus de formation, on parle juste de soutien. Donc, comme quoi, ça a un vrai impact sur soi et la gestion de ses propres émotions.
Alors, justement, si on revient sur la partie formation et sensibilisation, de manière concrète, vous avez mis en place des choses donc, dans le groupe Clarian pour mieux gérer ses émotions, par exemple, la fiche réflexe que vous avez mis en place chez
tout
vous.
Tout à fait, parce que souvent, une relation qui commence à se tendre, ça part souvent d'une mauvaise communication. Donc, on anticipe, comme le disait Salima, pour prévenir justement une situation un peu conflictuelle, en donnant les meilleures pratiques, les bonnes pratiques aux collaborateurs pour mieux communiquer de façon fluide et transparente avec les clients, pour justement prévenir les situations un peu compliquées. Et puis, il y a également plusieurs ressources très concrètes, notamment une formation sur la gestion des situations conflictuelles, qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes, avec des outils de communication basés aussi sur des règles de médiation aussi, donc des outils de communication de résolution de conflits avec un volet médiation. Il y a également des affiches pour les clients, pour les collaborateurs.
Ouais, je les mets à l'écran, là.
Exactement, donc une charte des règles de vie de la maison qui sont aussi bien pour le collaborateur que pour le client, qui sont basées sur l'écoute, le respect, le sourire, l'échange, hyper important. Une affiche également pour justement rétablir aussi le fait que on doit tous être respectueux les uns envers les autres et on n'accepte pas les comportements qui pourraient être déviants, comme par exemple la prise de photos ou de vidéos de collaborateurs sur leur lieu de travail. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qu'on affiche. Alors pas derrière un bus, mais mais sur dans nos affichages au sein de nos établissements et c'est pour l'ensemble des activités pour justement informer nos clients qu'on n'accepte pas des débordements. On a également
un
jeu de cartes ludique pour travailler en équipe parce que c'est pas évident de mobiliser les soignants sur ces sujets-là, qui sont, là encore, un manque de temps pour le volet formation. Donc, un jeu de cartes avec des situations très concrètes et les actions à mettre en place, des situations du quotidien où on sait que ça va déborder sur une potentielle relation conflictuelle. Donc, on met des actions très concrètes en place. Et puis, on a travaillé également cet été sur en équipe, pluridisciplinaire, c'est-à-dire vraiment avec un psychologue, avec des psychologues des établissements, des directeurs d'établissements, des aides-soignants, sur un projet de baromètre de relations avec les familles, principalement sur établissements, qui va permettre aux collaborateurs, aux professionnels de santé, d'évaluer, de diagnostiquer finalement le degré de relation avec la famille, si elle est saine, c'est-à-dire dans le vert, ou si elle est en voie de rupture, c'est-à-dire dans le rouge, et justement d'adapter son comportement, son attitude avec les mots, encore une fois, les éléments de langage professionnel, voilà, pour justement gérer la relation tout en restant professionnel. Et ça, c'est un outil qui sera mis en place très prochainement. Ce baromètre, il existe aussi en symétrie pour les clients, pour le résident ou le patient, pour évaluer la relation avec le soignant.
Relation.
Voilà, c'est ultra important d'avoir tout en symétrie. Et pour le coup, on communique à nos clients sur ce type d'outil parce qu'on est extrêmement transparent dans nos établissements. On dit tout ce qu'on fait, tous les événements. La traçabilité, tu en parlais, Salima, ça c'est obligatoire chez nous pour avoir justement cet historique et parce qu'on a des obligations vis-à-vis des ARS également. Donc tout événement ce qu'on appelle des événements indésirables ou des événements indésirables graves doit être signalé à l'ARS et le genre de situation conflictuelle en constitue pas mal.
C'est vrai que ça, c'est l'étape numéro 2, structurer la régulation. Et dedans, vous avez aussi la procédure à suivre.
Exactement, lorsqu'il y a, voilà. Et qui explique effectivement toutes les étapes, et notamment ce volet traçabilité qui est ultra important. Et les collaborateurs peuvent également, en toute autonomie, déclarer un événement indésirable, notamment via l'application que nous avons déployée pour le quotidien des soignants, une application mobile qui permet de gagner du temps.
Alors, si on revient maintenant à l'étape numéro 3, qui est protéger les collaborateurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, on l'a souligné. Toi, je sais que tu dis, voilà, il faut partir sur un certain nombre de points, tolérance zéro, la lettre, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment on fait pour protéger ses collaborateurs face à ces incivilités croissantes?
Oui, la protection des collaborateurs, elle est essentielle, hein, et notamment parce que ça peut être très grave, en fait, hein, d'où l'idée que c'est inacceptable, hein, les incivilités, quelles qu'elles soient. C'est important d'avoir un protocole de manière à pouvoir les gérer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un système d'escalade. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un bouton d'urgence, le fait de pouvoir, un bouton d'urgence en fonction de l'activité, de pouvoir avoir un numéro de téléphone, ou de pouvoir transférer. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait en effet un système d'urgence pour que ce soit pris en charge de manière rapide et très rapide, enfin de manière rapide, pardon. Et puis ensuite, alors tu parlais tout à l'heure du fait de recadrer d'une certaine manière ce client, d'avoir un dispositif officiel avec un service qui va envoyer un courrier très clairement à ce client pour lui signifier que son comportement n'est pas acceptable et qu'on se réserve le droit de mener des poursuites et d'en informer éventuellement le collaborateur. Ça protège d'une certaine manière.
Donc, c'est important. Se sent soutenu, protégé. On ne sent pas seul, en fait.
Exactement. Donc voilà, d'avoir un cadre qui soit clair et des droits qui soient reconnus.
Donc, cela, de manière concrète, c'est le baromètre. Mais vous avez également aussi une charte d'accueil que vous mettez à disposition et qui est aussi un élément qui va cadrer en fait tout ça et qui va dire, voilà, c'est ce qui est acceptable, ce qui n'est surtout pas acceptable.
Oui, ce sont les règles de vie, effectivement, de la maison, là, que tu as montré tout à l'heure, qui vraiment permet à chacun de se positionner et de montrer aussi aux collaborateurs, c'est un message fort, hein, qu'on pense à lui aussi. On pense au client, mais on pense aussi à lui. Et encore une fois, c'est notre mission que de prendre soin de nos soignants également, parce que sans eux, on peut fermer nos maisons, en fait, tout simplement. Donc on a vraiment besoin d'eux, on a besoin d'eux en forme, bien dans leur mission, parce que leur mission, elle est difficile, mais elle est nécessaire. Elle est clé, donc on doit absolument faire attention. Et c'est vrai que ces courriers de recadrage, aujourd'hui, donc nous, on en fait de plus en plus, malheureusement. Et ça, c'est un signal fort aussi qu'on envoie au réseau, parce qu'on ne laisse plus rien passer. En tous les cas, on ne peut plus accepter que nos équipes soient maltraitées. On ne peut pas accepter, on ne peut plus, et on ne devrait pas avoir à gérer ce genre de situation. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui.
Ouais. Alors, le quatrième point, c'est soutenir et recharger. Là également, il y a des choses en fait à mettre en place. Alors, qu'est-ce que tu préconises, dis-moi?
Déjà, on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas trop.
c'est l'idée.
Ça, c'est quand même important parce qu'il y a une usure émotionnelle après et donc il faut la prendre en charge. Donc, après, en fonction des cas et de manière individuelle, il y a des collaborateurs parfois. Enfin, il y en a à qui ça n'arrive jamais. Et il y en a à qui ça va arriver plusieurs fois. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre la mesure aussi de la situation et prendre des décisions peut-être pour ce collaborateur qui n'est peut-être finalement pas à la bonne place. Enfin, tu vois, après, ça, ce sera au management d'y penser et d'y réfléchir et que malgré toutes les formations qu'il a pu avoir, il y a peut-être quelque chose, c'est lui qui va déclencher chez le client, tu vois, une forme d'agressivité. Donc, ça, il faut y penser. Ensuite, c'est de systématiquement débriefer les collaborateurs avec les collaborateurs. C'est pas débriefer les collaborateurs, mais c'est débriefer la situation avec le collaborateur, ne pas laisser un collaborateur repartir sans avoir pu partager, échanger. Ça, c'est important.
Moi, s'ouvrir et sortir cette émotion qu'il a à l'intérieur
évidemment,
de lui.
Évidemment, ce qu'il vient de vivre, de ressentir. Et puis, parfois, on a besoin de se re-raconter l'histoire pour remettre les choses à la bonne place. Ça, c'est important, hein, de libérer la parole sur ces sujets, d'avoir un sas de décompression immédiat. Alors, évidemment, souvent, c'est en salle de pause ou... Voilà, il y a plein de possibilités, mais ça, c'est important d'accorder un temps, un laps de temps, en fait, au collaborateur qui vient de vivre une situation compliquée et difficile, pas qu'il reprenne son poste de travail.
C'est
tout
ce qu'on
suite.
Disait ce matin avec la MNT.
Et donc,
s'il faut 5 minutes de sas de décompression après un appel difficile, qui peut être un appel d'incivilité ou un appel émotionnel avec un fait grave, le collaborateur peut pas être au top juste après pour un autre appel. C'est trop compliqué, c'est trop dur, trop d'émotions.
En tout cas, il faut accepter que ce n'est pas forcément le cas et lui laisser la liberté de choisir et d'être entouré et encadré à ce moment-là. Et c'est là que l'équipe, l'esprit d'équipe, il est important et qu'on fait preuve de solidarité pour le back-upper éventuellement ou repositionner une autre personne en fonction du métier. Et ça, c'est important aussi que voilà, on ait cet esprit d'équipe et qu'on soit conscient de ce que l'on vit. Et qu'on se soutienne. Évidemment, ensuite, on va pouvoir mettre en place du coaching. Oui. Ça, je pense que c'est important aussi d'essayer de comprendre pourquoi on a vécu ce moment un peu difficile et surtout si ça se répète, ce que je disais tout à l'heure. Là, il va peut-être falloir creuser davantage avec le collaborateur en question. Enfin, voilà, mettre en place un certain nombre de rituels sur le parcours du collaborateur qui vit ce type d'incivilité. Et puis valoriser les micro-victoires quand on a réussi à faire justement baisser les choses, apaiser ces tensions et se dire « ouais, j'ai réussi ».
La vie de cette famille, mais ça se passe mieux maintenant, il n'y a plus la tension qu'il y avait auparavant.
Exactement, ça c'est important quand on a réussi à basculer finalement cette relation parce qu'on dit que c'est inacceptable et c'est un fait. Donc c'est important en effet de mettre des choses en place. Pour autant, le client c'est le client et il doit rester client.
Oui.
Donc, ce n'est pas parce qu'un client a fait preuve d'incivilité qu'on ne veut plus qu'il soit notre client, au contraire. Donc là, ensuite, il va y avoir tout un travail à faire pour comprendre, en effet, comme tu disais, apaiser les tensions, réparer les choses et remettre en place les bonnes actions pour renouer cette confiance et le fidéliser et que ça ne se reproduise plus. Mais l'idée, ce n'est pas de le perdre, ce client.
Ouais. Et c'est vrai que vous, comme vous êtes dans un contexte un peu particulier, vous avez même mis une ligne d'écoute téléphonique avec des psychologues. Bon, là, on est dans des cas vraiment qu'on ne retrouvera, j'espère pas, dans beaucoup d'entreprises, mais c'est quand même important.
Une ligne d'écoute psychologique, effectivement, pour les collaborateurs, exclusivement pour les collaborateurs, quand ils vivent des émotions quand même très, très fortes.
Hein, et puis un patient qui peut décéder.
Exactement. C'est quelque chose. Au quotidien, il y a des situations difficiles émotionnellement à gérer, donc il y a une ligne d'écoute psychologique dédiée. Et puis, il y a également une cellule de médiation qui a été mise en place au sein du groupe Clarian, à la fois pour le client, qui peut saisir un médiateur, donc un tiers neutre de confiance, qui pour apaiser justement la relation quand ça devient conflictuel, mais également pour les collaborateurs, les salariés également. Il y a des conflits parfois en interne entre salariés ils peuvent également faire aussi appel à cette cellule de médiation quand il y a besoin justement d'avoir ce sas de décompression aussi, de pouvoir aussi parler et essayer de retrouver une relation apaisée.
Non, c'est vrai, c'est important. Et l'ayant vécu au travail, entre collègues, je sais que des fois, c'est pas facile. Je te rassure, Chantal, je ne parle pas de toi. Mais c'est vrai que ça aussi, on l'a vu avec Soli Hazard, Groupama et Groupe France Mutuelle. Cette partie aider les équipes à gérer les moments difficiles, c'est vraiment important. Par exemple, chez Groupama, il y a la formation des relais RSP, qui vont aider là à gérer ses émotions. Et chez Soli Hazard, ils appellent ça les managers bien-être. Quand on a une incivilité, on se tourne vers son manager qui est là pour écouter, comme tu le disais. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir comme ça ces personnes-là qui sont là pour vous écouter. Et Soli Hazard et Groupe France Mutuelle ont aussi travaillé sur la partie sophrologie, comment on peut travailler son corps, sur la respiration, comment on peut travailler sur la saturation de ses sens pour essayer de faire redescendre la pression et faire en sorte que on puisse repartir après sur un autre point. Donc je trouve que ça c'est vraiment intéressant et je trouve que ce que font ces trois entreprises sont vraiment intéressantes. Alors on arrive à la cinquième partie. Le cinquième levier opérationnel, gérer les excès et reconnaître les incivilités. On a parlé tout à l'heure que c'était important de nommer une incivilité, mais donc il faut bien faire cette définition-là.
Oui, il ne faut pas les banaliser, ce n'est pas rien. À nouveau, j'insiste sur le fait que c'est grave.
Oui.
Qu'il ne faut pas les banaliser et que c'est important, notamment, d'identifier des seuils, en fait. C'est ce qu'on disait sur le fait de pouvoir mesurer, mais donc, du coup, il faut définir des seuils. Et ça, c'est important. À quel moment c'est un irritant ? Genre, je ne dirais pas juste un irritant, mais c'est un irritant. Ça m'agace légèrement jusqu'à ce que je sois véritablement blessée, en fait. Ouais. Donc, moralement, mais aussi physiquement. Donc, ces seuils, ils sont très importants pour notamment gérer les excès. C'est-à-dire, à partir du moment où je dépasse le seuil, c'est un excès, en fait.
Ouais.
Donc, voilà. Et puis, une fois que tout ça s'est identifié, ça veut dire que, du coup, on a le droit de les nommer.
Le droit de dire non.
Le droit de dire stop. Là, je suis désolée, mais en fait, Frédéric, non.
Tu n'as pas le droit de me parler comme
tu
ça.
Tu ne peux pas me parler comme ça, je ne l'accepte pas. Tu as dépassé la limite.
Mais c'est vrai. Par exemple, le groupe Atlantique a ce qu'ils appellent le joker. C'est-à-dire qu'une fois par an, un collaborateur a le droit de raccrocher un client qui a été totalement irrespectueux.
Oui, bon, moi, je ne raccrocherai pas parce qu'à nouveau, c'est un client, donc non.
Ils ne l'utilisent pas forcément, mais ils savent qu'ils ont le droit de l'utiliser.
Oui, je comprends. Moi, j'aurais plutôt tendance peut-être à lui mettre une petite musique d'attente, tu vois. Genre, hop. Tu vois, une petite musique. Ah, Yana Kamura, allez, hop, c'est parti.
5 minutes.
Voilà, je le basculerai plutôt sur autre chose ou peut-être même un petit bouton d'urgence. Attention, vous avez été agressif. Tu vois, j'en sais rien. Je pense qu'on peut imaginer plein de possibilités, en fait.
Par exemple, je reviens sur Nantes Métropole Habitat. Sur certaines personnes qui sont trop difficiles au téléphone, ils disent « Attention, monsieur, désormais, en fait, on ne communiquera avec vous que par email. » Et donc, en fait, ils ont un message quand ils appellent. « Désolé, monsieur, là, vous êtes trop irrespectueux. Vous n'avez pas des paroles qui sont acceptables. » Et donc, à ce moment-là, la communication se fait que par écrit.
Alors, oui, parmi tous les tips, en effet, on peut identifier plus ou moins. Alors, il faut faire attention avec la RGPD, etc.
Exactement.
Mais en tout cas, à partir du moment où un client aura été incivil, on peut se dire que son dossier aura été transmis à un service de médiateur ou au service juridique, et auquel cas, son dossier, s'il y a un dossier, est identifié.
Oui.
Et pour le coup, c'est un dossier, quand il nous contacte, il peut être directement orienté vers ce service de médiation qui a donc
vers un manager aussi.
Un manager, par exemple. En tout cas, des collaborateurs qui ont reçu une formation complémentaire que les collaborateurs en front n'auront pas reçue. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais bon, il faut quand même être prudent et respecter le cadre légal sur ce sujet. Évidemment, documenter, ça va être très important, avoir une base de connaissances qui va porter l'ensemble de ces sujets, parce que ça intègre véritablement le parcours client, donc ça doit être documenté et porté à la connaissance de tous, et puis identifier les KPIs, ça c'est important aussi pour mettre en place des actions correctives. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le cinquième point, qui est un levier opérationnel. Alors, sur les leviers opérationnels, il n'y a pas d'ordre en soi. Enfin, voilà, ils comptent tous, mais il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Ce sont vraiment les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour gérer les incivilités.
Ouais, c'est très juste. Et cette partie gérer les excès, reconnaître les incivilités, c'est donc le baromètre dont on a parlé.
Le fameux baromètre qui va permettre vraiment aux équipes d'identifier, alors c'est tout nouveau, d'identifier la bonne gestion de la relation et les différentes situations justement. Et puis surtout de les doter
d'éléments
de langage et de postures à avoir. C'est-à-dire, je me tiens à distance, je ne dis rien, le ton de ma voix, et puis les phrases que je peux dire, et tout ça de façon professionnelle, pour pas que ça déborde, justement, qu'ils arrêtent de subir la situation, finalement, qu'ils aient vraiment les clés pour pouvoir se sortir de cette situation, et puis passer le relais. pas ouais, se
pas, pas être en punching ball et ramasser exactement, des coups, mais dire ok, soit ben là, à ce moment-là, ben, on arrête le match et on
exactement,
passe à autre chose.
On a le droit de dire au client, ben, on va arrêter la conversation là parce que le ton ne me convient pas à moi en tant que collaborateur et donc on va s'arrêter là. Et ne serait-ce que de donner la permission entre guillemets aux collaborateurs de dire ça, ben, finalement c'est aussi lui donner les clés de voilà, on est là pour vous soutenir et c'est ultra important de le repréciser.
Ouais, c'est très vrai. Alors si on peut résumer en une phrase, alors ça ne va pas être facile, mais au moins en une ou deux phrases, ce qu'il fallait retenir de cet atelier sur la gestion des incivilités, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour les personnes qui nous écoutent ?
Qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Eh bien, je pense que c'est plus qu'aujourd'hui, il faut l'intégrer dans sa feuille de route et il faut faire les évolutions nécessaires pour la gestion de sa relation client de manière globale, c'est important. Je dirais même que c'est stratégique.
Ouais. C'est vrai que le climat économique ne va sans doute pas s'améliorer de manière importante dans les semaines à venir. Et géopolitique. Donc, il faut s'attendre à plus de tensions dans la relation client au sens large, quel que soit le secteur d'activité.
Exactement, et que cette partie humaine devienne une obsession pour chacun d'entre nous aussi, parce que ça va compter de plus en plus.
Toi, Astrid, si tu avais un petit mot
à... Tout pareil que Salima. Vraiment, la priorité, c'est focus collaborateurs qui sont nos premiers clients, finalement. Et puis, de les former, les outiller, prioriser pour qu'ils puissent réagir sans subir. Ça, c'est ultra important. Et pour préserver, justement, une qualité de relation humaine équivalente des deux côtés, hein, côté client et côté collaborateur. On ne peut pas, encore une fois, travailler l'expérience client sans travailler l'expérience collaborateur. C'est un non-sens que de ne pas penser aux collaborateurs d'abord.
Merci pour cet atelier passionnant. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la partie où on va faire gagner les deux livres. Justement, là, on est en plein dedans, les aidants. Chantal, c'est quoi la question pour gagner les deux livres ?
Alors, la question pour gagner les deux livres, je vais essayer de vous en donner une relativement facile.
Tout à l'heure,
c'était un petit peu compliqué quand même, ça a beaucoup ramé. Tout au long de cette session, on a détaillé un nombre de leviers opérationnels. Donc, ça se résume à un chiffre. Normalement, vous devriez, si vous avez bien écouté, voir que la session s'est découpée en 5 parties.
Non.
on va prendre une autre question.
c'est bon, le premier.
Allez, le premier qui balance.
Alors, une autre question, Chantal.
Une question
auquel on va répondre. Voilà.
Alors, il n'y a pas seulement eu des questions, il y a eu quelques remarques. Donc, je vais quand même en faire profiter nos intervenantes. Il y a Eliane qui n'avait pas de questions spécifiques, mais qui tient vraiment à vous remercier pour la richesse, la justesse et la qualité de vos interventions.
C'est gentil. Merci, Eliane.
Merci, Eliane. Nous avons Michel Boyer qui a assisté à cette session et qui est tout à fait d'accord avec Salima sur le fait de donc le type de Legrand qui permet de raccrocher au nez une fois le fameux joker pareil. Hein, Michel Boyer, elle dit surtout je vous en prie ne raccrochez pas.
faut pas raccrocher. Je vous en prie.
Voilà, elle est bien d'accord. Il y a une question. Qui est, y a-t-il des profils de collaborateurs plus à même de gérer les incivilités ? Est-ce que ça doit influencer le recrutement ?
Je pense que c'est pas, y a pas de profil, ce sont des comportements.
Exactement.
Et donc en fait, les comportements, ils peuvent évoluer, ils peuvent changer, on peut apprendre, on peut répéter. Donc il y a pas de profil, si ce n'est éventuellement une ouverture à l'apprentissage. Et une appétence à la gestion de ses propres émotions. Mais il n'y a pas de profil, non. Ça s'apprend, ça se répète. C'est des comportements, quoi.
Oui. Orienté client, aussi.
Évidemment.
Voilà.
Client. Une autre question ?
Oui.
On peut en prendre encore trois ou quatre.
Alors, c'était, je pense, une question plus pour Clariane. Comment faire pour maintenir le savoir-faire avec des équipes qui tournent souvent comme dans le médical ? Est-ce qu'il faut former en permanence ? Est-ce que vous avez un système de formation ou un parcours ?
Pour les incivilités.
Les incivilités ?
Ouais, je pense.
C'était pas précisé.
Bon, je pense que c'est pour les incivilités ou la relation client, je pense. Parce que les formations techniques, je pense que les gens, ils ont...
En principe, quand ils viennent, ils connaissent leur métier. Mais oui, bah, y a tout ce qui est gestion des relations conflictuelles, cette formation qui est effectivement délivrée à tous les collaborateurs, en tous les cas. Après, on privilégie surtout certains établissements, parfois, qui sont plus sujets, parce que parfois, sur certaines régions, sur certains établissements, il y a plus... On constate un plus haut niveau, mais oui, tout le monde est formé à la même enseigne.
Alors, une autre question, Chantal ?
Oui, c'était Laurence qui disait « J'entends que c'est un client, mais jusqu'où aller pour le garder ? Quelles limites donner ?»
Ouais.
Il veut répondre ?
Tout doit être fait pour garder le client, sauf si en effet, on est amené à... J'ai envie de dire à déposer une plainte et encore que non, je pense qu'il n'y a pas véritablement de limite. Tout doit être fait pour résoudre la problématique. Tout. Hein. Et c'est évident que sur de l'agression physique ou matérielle, là on a dépassé un certain stade et qu'en règle générale l'entreprise va être amenée à porter plainte parce que du coup elle va vouloir obtenir réparation. Mmh. Quand c'est de la violence physique, il y a quand même des enjeux. Peut-être que la santé du collaborateur, son intégrité physique, voilà, il va être blessé. Ouais. Auquel cas, je crois que là, s'il n'est plus client, ce n'est pas très grave en soi, au contraire. Ouais. Mais tant qu'on n'est pas sur des violences physiques et matérielles, je pense qu'il faut tout faire. Il n'y a pas vraiment de limite.
On peut essayer de réparer la relation.
Exactement.
Complètement. Okay.
Alors, Chantal, encore une question, je pense. Les 50.
Allez, vous avez parlé de fiches réflexes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de mots, des termes ? Idem pour le jeu de cartes. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. C'est Yannick qui pose la question.
Alors, la fiche réflexe, c'est plutôt les bonnes pratiques d'avoir une bonne communication fluide et transparente avec les clients. Alors, c'est en fonction des mots choisis. Alors, je ne l'ai pas en tête, hein, cette fiche réflexe. Hein, c'est effectivement les meilleures pratiques en termes de communication, le ton de voix, la posture, la régularité de la communication aussi avec... je pars sur mon secteur. Hein, il faut échanger régulièrement avec la famille, être transparent, ne pas surpromettre des choses qui ne sont impossibles à faire. Donc vraiment être dans la transparence et dans la régularité de l'information. Et puis le fameux jeu de cartes ludique, c'est vraiment un jeu de cartes qui permet aux collaborateurs de jouer en équipe justement avec des situations. Il y a une situation du quotidien d'un EHPAD par exemple, dont on sait cette situation va générer souvent des réclamations. Alors moi, j'ai la gestion du linge en tête, hein, par exemple. Oui, le linge du résident, c'est un sujet chez nous.
Ah, les vêtements.
Ah, les vêtements, oui. C'est le premier motif de réclamation, c'est la gestion du linge. Parce qu'on a des prestataires externes qui viennent chercher le linge pour le laver à l'extérieur. Et puis, bien sûr, ils ramènent la moitié du linge. Et donc, c'est un sujet dans un établissement de santé. Médico-social en tous les cas. Et donc, face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit pour que les équipes aient les bons mots pour justement répondre à ce genre d'insatisfaction qui peut vite déborder, hein, très sincèrement.
Hein. Et de linge qui disparaît ?
Oui. On a du linge qui est envoyé à l'externe pour le laver, et il ne revient pas. Des fois.
C'est un peu l'idée de la chaussette disparaît chez toi à la maison.
Ah ouais,
tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment d'explication.
On arrive à la retrouver à un moment donné.
Pas toujours. Hein. Pas toujours.
Ok. Alors, à moins que tu aies une dernière question, on pourra clôturer cette session, Chantal.
J'en avais. Oriane.
Donne une dernière. Allez.
Oriane qui demandait, avez-vous mis en place des enquêtes de satisfaction en dehors du baromètre ?
C'est vrai que vous utilisez Locan pour le centre de contact.
Oui, bien sûr. On a un dispositif de mesure de satisfaction, même qui est assez complet, hein, puisqu'on a donc en continu les courts séjours et les séjours permanents dans nos établissements, et puis également des enquêtes de satisfaction des nouveaux résidents et de leurs proches, qui va permettre justement d'ajuster l'accompagnement en cas d'insatisfaction, y compris pour les patients en clinique où il y a un questionnaire en cours de séjour. Et à la sortie, donc il y a vraiment un dispositif 360 pour mesurer l'expérience client, de manière générale.
Ouais, c'est vrai que c'est important de mesurer à différents points, à différents moments.
Exactement. Ouais.
Ok, ben bah, merci.
Et la gagnante de nos deux livres, c'est encore une gagnante. Il s'agit de Ludivine Grenot. Bravo Ludivine, je vous ai quand même bien aidé, quoi. Mais bon.
Félicitations. Bravo à vous.
Merci donc à toutes les deux et rendez-vous dans quelques minutes pour le dernier épisode du CX Summit 2025.
On va parler... Il y aura encore deux livres à gagner, les deux derniers, donc soyez présents.
Et là, on va voir 7 usages concrets de l'IA pour améliorer la relation client avec Mohamed de Adeco Médical, qui est aussi client éloquent sur la partie centre de contact. Alors, à tout de suite.